pas mal de petites questions. Je vais lire. Il n'y a pas d'ordre, parce que c'est les questions. Hein. Alors, vous voyez, puisqu'il y a longtemps qu'il y a eu la retraite entre deux. Alors, la retraite a effacé tout ce qu'on avait dit avant, n'est-ce pas ? On était sur les interventions de Dieu dans le gouvernement divin à propos de l'amitié. Puisque l'amitié touche une finalité. Alors, parce que ça touche une finalité, l'amitié touche une personne. Donc, ça joue. Il y a nécessairement une intervention de Dieu. C'est une véritable amitié, pas la camaraderie. Hein. La camaraderie, on met tout le monde dans le même sac. Alors, la camaraderie, c'est pas nous qui la faisons, on fait un groupe. On fait un groupe, et on met exprès des gens différents dans le groupe, pour faire des équilibres. Mais donc, la camaraderie, c'est... Mais je parle de l'amitié, vraiment. De l'amitié qui est rare. Il faut bien vous dire ça. Dieu intervient-il directement pour susciter des maîtres pour la sagesse ? Vous voyez, alors là, on saute, hein, on est déjà à la sagesse. Après l'amitié, c'est la sagesse. Philosophique et théologique. Quelle est la place du maître dans ce gouvernement ? Sûrement qu'il y a une intervention de Dieu spéciale pour atteindre la sagesse. On est maître que quand on a atteint la sagesse. Autrement, on n'est pas maître. On est simplement répétiteur. Et c'est très bien d'être répétiteur. Il en faut. Et des quantités de professeurs sont des répétiteurs parce qu'ils ont des livres et ils répètent les livres. Ils n'ont pas d'idée. Ils répètent des livres. Je sais très bien comment on fait un cours quand on ne connaît pas. On prend 5-6 livres et on fait une petite synthèse et 5. Et il n'y a pas d'idée personnelle. Parce qu'une synthèse et 5. Oui. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un répétiteur, ça. Il a des références. Un tel a dit ça. Alors aujourd'hui, le répétiteur est de moins en moins utile, puisqu'on a des possibilités d'avoir des cours qui vous sont donnés et qui sont très bons, qui sont faits par des répétiteurs distingués. Mais je crois que c'est très important. Vous voyez, vous savez... Quand le Saint-Père est venu à Fribourg, bon, il devait venir beaucoup plus vite, et puis il est venu beaucoup plus tard. Et je ne savais pas du tout quand il viendrait. Et par hasard, selon la Sainte Providence, j'étais de passage à Fribourg juste ces jours-là, où le Saint-Père venait. Alors, j'avais été professeur, mais je n'étais plus professeur. Les professeurs ne m'ont pas invité avec eux, donc j'étais dans la foule. Les professeurs étaient à une place, mais je n'étais que... Alors, du reste, d'une certaine manière, j'aimais mieux. Alors, il y a eu le Saint-Père a fait son discours, puis après, le Saint-Père a demandé s'il y avait des questions. Alors, on le savait, donc c'était sûrement bien préparé. Et là-dessus, élevé une étudiante avec beaucoup de toupet. Elle dit très Saint-Père, merci de tout ce que vous avez dit, parce que le Saint-Père avait parlé de la sagesse. Merci de ce que vous avez dit. Mais il faut bien se dire que nous avons beaucoup de, elle a dit, nous avons beaucoup de bons professeurs, mais nous n'avons pas de maître. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence entre le professeur et le maître ? Alors, le Saint-Père a répondu, le maître est celui qui atteint la sagesse philosophique. S'il s'agit de la philosophie, qui atteint la sagesse et qui contemple. Le professeur, c'est un répétiteur, c'est un peu un frère aîné qui connaît mieux la matière et qui vous aide, vous oriente à prendre ceci, ceci, mais qui n'a pas d'idée personnelle parce qu'il n'atteint pas la sagesse. Dès qu'il atteint la sagesse, il est un maître. Vous voyez ? Alors cette fille disait, nous avons de bons professeurs ici, mais non, pas de maître. C'est évidemment assez cinglant. Le professeur était derrière. Et c'est vrai. Il faut dire que c'est vrai, c'était très intelligent et très juste de dire ça. Le maître, c'est nécessairement celui qui a atteint le terme et qui, par le fait même, peut conduire au terme. S'il ne l'a pas atteint, il ne peut pas. Vous voyez ça très fort, par exemple, de voir quelqu'un qui vous conduit en montagne. Dans une montagne difficile, dangereuse. Le maître, c'est celui qui a déjà fait le parcours plusieurs fois et qui connaît les endroits. Le guide, simplement, sans être un vrai guide, un guide maître, un vrai guide, il découvre en même temps que les autres. Mais avec un peu plus d'expérience que les autres. Mais il ne sait pas lui-même exactement où il va. Donc, Dieu intervient-il directement pour susciter des maîtres ? Oui, puisqu'il s'agit de la sagesse. Pour la sagesse philosophique et théologique, quelle est la place du maître ? Dans ce gouvernement, le gouvernement, le maître indique la finalité. Il indique la finalité comme quelque chose qu'il connaît, qu'il a déjà caressé philosophiquement. Il sait ce que c'est. Tandis que celui qui n'est pas maître n'a pas atteint la finalité. Pourriez-vous revenir sur ce qui permet aux philosophes de distinguer la nature blessée de la nature humaine bonne ? Qu'est-ce qui permet aux philosophes de discerner une pente naturellement bonne chez l'homme ? Cela ne peut se discerner que par la finalité. Parce que le péché originel, il est originel. Donc il est aussi vieux que le bonhomme. Donc vous ne pouvez pas dire, ah, il a subi l'influence là de telle chose, de tel maître, de tel... Non. Nous avons subi l'influence radicale et nous ne l'avons pas choisie. Cette influence radicale, c'est que nous sommes petits-fils et arrière-petits-fils et arrière-arrière-petits-fils d'Adam. Dieu l'a voulu comme ça. Qu'il y ait cette parenté radicale fondamentale avec Adam et Ève. Et nous n'en pouvons rien. Mais notre nature, je dis bien notre nature, est liée à Adam et Ève. Pas notre personne. Puisque notre âme est créée directement par Dieu. Mais notre corps est en relation avec... Et c'est pour ça qu'on cherche éperdument par l'évolution l'origine. C'est curieux de chercher l'origine comme on le fait, éperdument. Dernière grande exposition que j'ai eue, moi, c'est... C'était « Si tombe mon noviciat », c'est à Paris au Trocadéro. Une très belle exposition sur le point de vue évolution. On partait du poisson, puis à tous les moments. Et on terminait par le Parisien. Parce que quand on partait, il y avait une grande glace. Alors, le Parisien se retrouvait le dernier moment d'évolution. C'était très bien fait et très astucieux. Je connaissais celui qui l'avait fait, c'était un grand savant. Il terminait, c'était l'âge de la retraite. Et là, on lui avait permis de faire. Fait monter cette exposition pour lui. Et c'est très astucieux. Il faut de temps en temps dans sa vie voir ces choses-là, les voir. C'est pas seulement les lire, mais les voir, c'est très intéressant. Il y a eu tous les commentaires des gens qu'on entendait par derrière, qui étaient très intéressants aussi. Vous voyez, il y a éperdument, c'est curieux, hein, éperdument cette recherche de l'origine et pas de la finalité. Or, l'origine, elle est perdue. Vous avez ce même climat des gens, des personnes qui savent, hein, qui ont été adoptés. Donc, que les parents qu'ils ont cru pendant un certain temps être les vrais parents ne sont pas les vrais parents. Et quand on leur a annoncé ça, je ne sais pas du récit, c'est bon de l'annoncer, mais toujours est-il que le cas, c'était ça. C'était une petite carmélite, du reste. Qui était à la porte du Carmel comme sœur converse, qui avait appris qu'elle avait été adoptée toute jeune. Alors elle m'a raconté ça. Et le jour du Dupet, on lui a annoncé ça quand elle avait 17 ans, je crois. Alors, elle a été bouleversée, mais très profondément, dans les assises, hein, sa propre personne, était mis à chercher éperdument où étaient ses parents, ses vrais parents. Elle est arrivée à les découvrir. Le père et la mère étaient en prison. Oui. Ce que ça fait comme secousse. Prison, perpétuité ou des choses. Le père et la mère, elle m'a raconté ça. Elle les a vus. Et eux ont reconnu. Et qu'on leur avait enlevé leur enfant parce qu'ils étaient indignes comme. Incapable de produire avant. Vous voyez, cette espèce de besoin qu'on a de connaître son origine, c'est très cru ça. Et nous avons la même chose, besoin de connaître notre origine. Alors, nous savons, nous, par la foi, mais sans la foi, on ne connaît pas notre origine. Par la foi, il y a le péché d'Adam et Ève. Et c'est cela qui, au point de vue de la foi catholique, est le plus difficile à accepter. Vous voyez, le péché originel aujourd'hui, on grince des dents hein, quand on en parle, dans certains milieux. Et on sait très bien que les gens n'acceptent plus. Il y a eu un livre, le nom de ce père jésuite, qui était, en montrant que le péché originel, c'est tout simplement un mythe. Alors, c'est pas un mythe. Le Christ est venu pour réparer le péché originel. C'est pas un mythe, la mort du Christ. Donc, c'est lié pour nous à la mort de Jésus. Et la réparation de ça. Mais c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus difficile à la foi chrétienne, à la foi catholique, d'accepter le péché originel. C'est que, théologiquement, c'est une des questions les plus difficiles. Je vois un professeur qui l'expliquait tout à fait indépendamment de saint Thomas et son explication ne tenait pas. Je me souviens très bien. Et j'ai dû passer l'examen avec lui. Là, j'avais travaillé beaucoup la question dans saint Thomas. Quand il m'a posé la question à l'examen, j'ai hésité. Ou de répéter ce qu'il avait dit, en fidèle étudiant, ou simplement d'essayer de lui dire ce que saint Thomas avait dit. Alors, j'ai su, parce que père Chenu, comme il était Marie-Dominique, donc il m'aimait spécialement, et Père Chenu était recteur, donc vous savez bien. Il m'avait mis une très bonne note. Alors, le Père Chenu m'a dit, quand j'ai vu ça, cette très bonne note, parce que Père Chenu savait très bien qu'il y avait une petite tension entre nous, intellectuelle. Et le Père Chenu lui a dit, mais tiens, c'est curieux. Alors, il a simplement répondu au Père Chenu, j'ai été forcé. C'est honnête, hein? J'ai été forcé. Et là, j'ai raconté au Père Chenu l'histoire. Le Père Chenu a dit, ah, là, je comprends. C'est une des questions les plus difficiles dans saint Thomas, mais très intéressante. Vous voyez, c'est la question de la nature, hein? Le péché de nature. Tous les autres péchés sont personnels. Là, c'est un péché de nature. Parce que c'était le péché à l'égard de quelqu'un qui était responsable de toute la nature humaine. Et Dieu a voulu que la nature humaine soit comme ça. Il aurait pu très bien le vouloir autrement. Les anges, ils n'ont pas de père et mère. Ils ne dépendent que de Dieu. C'est plus facile. Dépendre de père et de mère, c'est une situation assez particulière. Et la personne, mais notre finalité est au-delà de la nature. Mais notre nature dépend de nos parents, dépend de tout l'atavisme. Et l'atavisme, il remonte à Adam. L'atavisme, il remonte à Adam. C'est pour ça que l'Église tient. Est-ce qu'il y a un seul couple? Alors que scientifiquement, vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est une question de foi. Scientifiquement, vous avez plusieurs points de départ. Parce que vous ne remontez pas à Adam et Ève. Vous n'avez jamais découvert le corps d'Adam. Et le corps d'Ève, les ossements de l'ange, les ossements d'Ève. Il n'y a jamais découvert. Et c'est vrai, c'est une question de foi. Le péché originel, c'est une question de foi. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, parce que ça montre les limites. Vous ne pouvez pas revenir au premier selon l'origine. Le premier selon l'origine, pour nous, c'est une question de foi. Tandis que le terme, la finalité, c'est une question philosophique. Oui. C'est pour ça que seule la finalité me permet de comprendre ce que c'est que l'homme. Et pas l'origine. Et toute la science, avec l'évolution, est du côté origine. Alors, c'est très intéressant. Quand il y a une exposition, une grande exposition sur l'origine de l'homme, ça vaut la peine de la voir. Parce que, et de la voir avec un instant critique, un instinct critique, hein, de voir, c'est sophistique. Parce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas assisté à toute cette évolution. Vous ne savez pas que tout provient du poisson. Mais, alors, c'est très intéressant. Vous voyez, Platon nous apprend que quand on ne connaît plus, on invente le mythe. Et c'est vrai, Platon, c'est ça. Dès que le logos ne peut plus rien dire, on est le mythe. Et parce qu'au fond, nous avons besoin de savoir. Alors on croit savoir avec le mythe. Mais on ne sait pas. Pour un savant, la foi, c'est un mythe. Oui, pour un savant. Donc, nous sommes les derniers représentants d'un mythe du Moyen-Âge. Nous sommes les derniers représentants de ce mythe du Moyen-Âge. Un positiviste, il vous dira ça. S'il ose vous le dire en face, si c'est un ami, il vous le dit. Vous êtes, oui, c'est intéressant de voir que ce mythe du Moyen-Âge continue de vivre. Il est très enraciné. Mais c'est un mythe. Parce que la foi, elle ne peut pas être vérifiée. Donc elle est un mythe. C'est un mythe religieux. Et c'est ce que on voit chez les, justement les successeurs de rien. Ils sont dans le mythe du symbole. Tout revient du symbole. Le symbole est un mythe. Alors, pourriez-vous revenir sur ce qui permet aux philosophes de distinguer la nature blessée de la nature humaine? Seule la finalité, puisque je ne connais pas l'origine, au point de vue philosophique, je ne connais pas mon origine. Au point de vue philosophique, je peux dire que mon âme n'a pas d'origine naturelle humaine, qu'elle provient de Dieu, mais je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas dire quel était le premier homme. Est-ce que le premier homme provient du poisson, ou est-ce que le premier homme appelle une intervention propre de Dieu? Donc, pourriez-vous revenir sur ce qui permet aux philosophes de distinguer la nature blessée et la nature humaine? Psychologiquement, je ne peux pas distinguer ce qui, dans ma nature, est bonne, et quelque chose, ma nature bonne comme nature, et ce qui provient de la blessure originelle. le philosophe, le psychologue ne peut pas discerner ça. Puisque le mal, la nature blessée, est originaire. Je suis né avec une nature blessée. Et donc, ce qui est naturel en moi, c'est d'avoir une nature blessée. C'est naturel. J'ai une nature blessée. Nous avons tous une nature blessée à des points différents. Mais nous avons tous une nature blessée. Or, je peux accepter que cette nature blessée et la distinction entre la nature blessée et la nature bonne, où est-ce que je peux le distinguer ? Par la finalité. Supprimer la finalité, c'est donc supprimer la possibilité de voir ce qui est bon dans ma nature et ce qui est blessé dans ma nature. Le démon est très astucieux, vous savez. Il a supprimé la finalité avec Auguste Comte. Par le fait même, il supprime la possibilité de voir dans ma nature ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que ma finalité, je peux la découvrir. Qu'est-ce qui permet au philosophe de discerner une pente naturelle bonne chez l'homme ? La finalité. J'aime le bien. Oui, aimer le bien, c'est la finalité. C'est ça l'important, c'est que au fond, l'origine de l'homme ne peut être découverte que par la finalité. Notre vocation et notre réponse à l'appel de Dieu et le discernement d'une vocation semblent se faire souvent par rapport à la recherche de la vérité. Et notre réponse à l'appel de Dieu et le discernement d'une vocation semble se faire souvent par rapport à la recherche de la vérité. Faut-il distinguer la recherche de la vérité de la consécration à la recherche de la vérité ? Oui, deux choses différentes. Nous sommes consacrés à la recherche de la vérité. Avec la vocation de Saint Jean. Ça fait partie de notre vocation. La consécration de la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité n'est pas naturelle, cette consécration à la recherche de la vérité. Elle est surnaturelle. Ce qui est naturel, c'est de rechercher instinctivement la vérité. C'est naturel. Mais se consacrer sa vie à une recherche de la vérité, ça c'est divin. Mais c'est pas la même chose. Quand vous consacrez votre vie à la recherche de la vérité, c'est que vous voulez demander à Dieu l'aide de cette recherche de la vérité. Et vous promettez à Dieu de tout faire pour rechercher cette vérité. De mobiliser tout votre puissance dans cette recherche de la vérité. Et ça, c'est pas naturel. C'est une grâce de Dieu qui me permet de dire ça et de faire ça. C'est une grâce de Dieu qui me permet de comprendre que la recherche de la vérité est capitale pour ma nature et que cette recherche de la vérité ne pourra se faire parfaitement jusqu'au bout que grâce à la foi. Autrement dit, j'accepte qu'il y a deux espèces de vérité, une vérité naturelle que mon intelligence peut découvrir, philosophique, et que cette vérité-là n'est pas la seule. Il y en a une autre. Et je me consacre à cette recherche de la vérité naturelle et surnaturelle. Pouvez-vous expliquer davantage la place de la nature dans le gouvernement divin? Bien sûr, je ne peux l'expliquer que par certains points de vue. Je ne peux pas l'expliquer en vous donnant la possibilité de comprendre ça tout de suite, blanc et rouge. Pouvez-vous expliquer davantage la place de la nature dans le gouvernement divin? Tout ce qui est naturel est inscrit dans ma nature et n'a pas besoin d'un aide spéciale de Dieu, puisque c'est naturel. Et ma nature est déterminée par une certaine finalité. Ma nature est déterminée, c'est pas la nature de la vache. Et donc, pour moi, le bien n'est pas celui de la vache. Le bien de la vache, il est très déterminé. C'est l'herbe qu'elle broute. Dites-moi, je ne broute que la salade. Je mets un discernement. Et je prends ça, parce que là, vous comprenez tout de suite. Mais ma nature va beaucoup plus loin. Pour moi, ma nature, mon bien, est un bien spirituel en premier lieu. Le bien, qui est le bien de la vache, l'herbe, le bien de la nourriture, c'est nécessaire, j'ai besoin de me nourrir, mais c'est pas le premier bien. Ce bien-là est nécessaire. Je suis conditionné par ce bien. La nourriture. Si on me sert une nourriture impossible, j'aurai mal à l'estomac et je ne pourrai pas faire de la philosophie, de la théologie. Mais c'est une condition sine qua non, ce n'est pas une finalité. Et ceci, je ne discute pas. La distinction entre le bien de l'intelligence, la recherche de la vérité, et la recherche d'une salade digestible, d'une nourriture qui me permet de travailler, et une nourriture qui ne me permet pas de travailler. Je fais la distinction, première distinction, et elle est naturelle. Cette distinction entre une nourriture. Alors, vous voyez, on dira tout de suite, et puis on est habitué, c'est vrai, on est habitué à avoir une nourriture de telle façon, et de telle façon, c'est pas uniquement naturel. C'est aussi dépend d'une culture. Je distingue le bien naturel de mon corps, le bien naturel de mon intelligence, le bien naturel de ma volonté. Je distingue, et je peux les distinguer, et je peux distinguer un bien surnaturel au-dessus de la nature, qui est le bien surnaturel de l'intelligence, le bien surnaturel de la volonté. Tout ce qui est nature en moi ne dépend pas, n'est pas en dépendance d'une volonté actuelle de Dieu explicite sur moi. Ma nature suffit. Dieu a créé mon âme, et en créant mon âme, forme d'un corps, il y a toute une série de déterminations qui sont faites. Elles sont naturelles. Et en tant qu'elles sont naturelles, Dieu respecte la nature. Et je suis conditionné par cette nature. Je suis à la fois déterminé et limité. Je ne peux pas vivre comme une vache. J'ai besoin de vivre autrement. Et c'est ma nature, ça. Et il ne faut pas un secours spécial de Dieu pour faire la distinction entre les deux. Oui, c'est donc... On revient toujours à cette distinction capitale. Distinguez bien nature et personne. Vous êtes né avec une capacité d'être intelligent, d'être bon. Le développement de votre nature, intelligence et bonté. Et à partir de là, c'est poser un problème de l'orientation de votre vie. Et l'orientation de votre vie, elle n'est pas déterminée selon votre nature. Vous étiez capable de faire des tas de choses différentes de celles d'être moine. Vous étiez tous capables de faire autre chose. C'est du reste pour ça qu'il y a des tentations. Parce que votre nature, quelquefois, gémit par la vie monastique. C'est normal. La vie monastique va vous faire entrer dans le carême. Et votre nature humaine n'aime pas tellement le carême. Et on ne vous demande pas votre avis. C'est la liturgie. Hein, hein. Il faut obéir alors, oh, il faut obéir. Et demain vous entrez dans le carême. Il y a un jeûne conventuel. Et le pape nous le recommande, c'est ainsi. Ça, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Non. C'est pas naturel. Que le carême soit très bon naturellement, très bien. Oui, très hygiénique et très bon. Pendant un certain temps de l'année, de manger un peu moins. Parce qu'on mange beaucoup trop. Alors, c'est bon. Vous le faites avec un motif surnaturel, c'est très bien. Et naturellement, c'est pas mauvais. Vous voyez, distinguer nature et personne. Ça, il faut vous habituer à ça, c'est excellent ça. Parce que là, vous voyez, ceux dont vous êtes responsable et ceux qui n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable d'être un homme, pas responsable d'être une femme, non. On l'accepte, c'est naturel. C'est très bon d'avoir cette lucidité, de voir dans votre vie actuelle, ça c'est l'examen de conscience, ce qui peut être réformé en vous, ce que vous êtes capable de réformer, et ce que vous êtes incapable de réformer, ce qui est naturel. Vous ne pouvez pas. Il y a des personnes qui ont une mémoire extraordinaire. On a développé cette mémoire dès la jeunesse. Alors c'est presque comme venu comme une nouvelle nature. Parce que le développement de la nature, de la mémoire, n'est pas naturel, n'est pas directement naturel. Il y a eu l'éducation qui a permis ça. Vous avez eu une éducation où on a laissé votre mémoire au repos. On n'a pas demandé tout de suite à ce petit que vous étiez à faire des exercices d'apprendre les femmes de La Fontaine. Les résister à la grand-mère. Et donc, en faisant cet exercice, on a exercé votre mémoire très vite. Et votre mémoire s'est développée. Au contraire, on n'y a pas pensé du tout. On vous a laissé tranquille pour ôter l'herbe. Et on vous a laissé tranquille parce que votre santé, c'était avant tout ça. Donc on n'a pas développé votre imagination et votre mémoire. Vous n'en pouvez rien. Votre première éducation, vous n'en pouvez rien. Dieu vous a mis dans tel lieu. Et Dieu vous a demandé d'être éduqué, du moins a permis que vous soyez éduqué de telle ou telle façon. Et c'est devenu comme une nouvelle nature. Parce que les choses qu'on a apprises dans sa première jeunesse, c'est comme une nouvelle nature. Il y a une nature française, une nature anglaise, une nature allemande, germanique. Donc, c'est développant tout à fait premier. Ils sont très profondément racinés en nous. Et les changer, c'est pas commode. Vous voyez, on les change, c'est la réflexion, j'ai déjà cité là, cette réflexion de celui qui visitait une chartreuse. On ne visite pas une chartreuse vivante, mais on visite une chartreuse artificielle. Et on l'avait visitée. Et la réflexion de ce grand Américain, quand on lui a montré le lit, il a posé la question, mais ce lit, il est le même pour tout le monde? Alors le père qui disait oui, il est le même pour tout le monde. Alors quand on est très grand, ben on vous coupe le pied. Bon, alors, symboliquement, c'est très vrai. Mais il y a des frères qui ont une imagination énorme, il y a des frères qui ont très peu d'imagination. Alors, c'est les frères qui ont peu d'imagination. La vie commune, selon le calendrier, très bien. Celui qui a une grande imagination, oh, c'est effrayant, c'est toujours la même chose. Parce qu'on a été habitué de voyager beaucoup dans son jeunesse. L'imagination s'est développée et on a le temps pour voyager, le temps pour en voyager. Alors, dans la vie religieuse, c'est le même pour tout le monde. On ne vous a pas mesuré le degré de votre imagination quand vous êtes entré. Donc on vous coupe le pied. Oui, mais c'est au fond ça qui est très important. C'est d'avoir conscience en nous de ce qui est naturel, de ce qui est personnel, de ce qui relève de l'éducation, de notre première éducation. Et ce qui relève d'une éducation après, alors qu'on a choisi. Votre première éducation, vous ne l'avez pas choisie. On vous l'a imposée. Et c'est forcé. Vous n'avez pas choisi de naître, non. Vous êtes condamné à exister comme un homme. Et vous avez choisi alors la vie religieuse, parce que c'était ce qui vous permettait d'échapper le plus à la nature humaine. Tiens, j'avais pensé à ça. Mais oui, comme religieux, vous cherchez que tout soit personnel. C'est-à-dire un enfant du Christ, un enfant de Dieu. Alors que quelqu'un qui n'a pas choisi, il est retombé lourdement dans la nature. Tandis que dans la vie religieuse, on a fait le pari, avec la grâce de Dieu, d'être très personnel. Et vous n'avez qu'à demander à votre mère, parce que c'est elle qui juge le mieux de ça, plus que votre père. Si elle vous trouve changé, là, la mère, elle dit, mon petit, il n'a pas changé du tout. Là, c'est la réflexion des bonnes mères. Quand tu vois le novice au bout de 6 mois, il n'a pas changé du tout. C'est tout à fait le même. C'est même ce qu'il y avait de meilleur en lui qui s'est développé le plus. Elle voit que c'est le même. Parce que la nature, c'est très proche de la mer. La nature, c'est beaucoup plus. Alors, elle trouvait que ce n'est pas changé. Et au fond, lui, le novice, il sait que tout est changé dans sa vie, parce que tout a été pris par un point de vue personnel. On a compris que la grâce transformait toute notre vie et exigeait que la finalité soit présente dans toute notre vie. Dès que vous vous levez, vous vous mettez objectivement finalité, acte d'adoration, acte d'amour, vous finalisez tout. Tout est finalisé. Il n'y a que pendant la nuit. La nuit est encore finalisée, puisqu'on offre son sommeil à Jésus, à Marie. C'est vrai. Autrement, on essaie de dormir le moins possible pour faire le plus de choses possible. Mais on accepte de dormir. C'est un respect à l'égard de la nature. Je respecte la nature et je l'offre à Dieu. Donc, la vie du couvent fait que vous devenez de plus en plus une personne divine. Et une personne divine peut tout prendre. La nature humaine est totalement transformée par les sacrements. Il regarde la nature. Et la nature est totalement transformée pour devenir une personne. Alors pourriez-vous expliquer davantage la place de la nature dans le mouvement divin? La nature nous permet de découvrir l'existence de l'être premier, très juste. Il semble qu'elle nous renvoie vers Dieu. Pour cela, il faut qu'elle s'appuie sur elle et qu'on la devienne libre. C'est ça. Vous avez donc une preuve de l'existence de Dieu par la nature et vous avez une preuve de l'existence de Dieu par la personne. Tiens, il y a les deux. Par la nature, Thomas d'Aquin, par la personne, la liberté, l'amitié. Et c'est vrai. Il n'y a rien de plus personnel, il n'y a rien qui développe plus notre personne que la vie religieuse. Ça développe le plus notre personne avec le respect de la nature. Mais un respect, vous n'entrez pas au couvent pour développer votre nature. Le Père Maître doit respecter votre nature. Et tout le temps la dépasser. Alors, pourquoi Dieu choisit-il cette médiation de la nature, puisqu'il n'y intervient pas et qu'il sait que l'homme risque d'y s'y perdre? Alors, c'est le grand mystère de la création de l'homme. Que Dieu ne s'est pas contenté de la création des anges. Le philosophe ne peut pas dire ça, hein, puisque ce n'est pas les anges. Mais le théologien le dit. Le philosophe doit se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il voulu créer un chef-d'œuvre de cette manière, avec nature et personne? Il a laissé une grande part à la nature. Alors ça, c'est tout le gouvernement divin. Dieu qui laisse une grande part à la nature. La nature, il a déterminé les lois dans sa sagesse. Et il laisse une part encore plus grande au choix personnel. Pourquoi a-t-il fait ça alors que dans l'ange, la nature est beaucoup moins affirmée que pour l'homme. Parce que pour l'homme, la nature va jusqu'à la procréation, ce qui n'existe pas pour l'homme, pour les anges. C'est très très curieux. Là, on touche un problème devant lequel le philosophe se tait. Mais on retrouve dans la philosophie les philosophes de la nature, les philosophes de la personne. Il faut maintenir les deux. Et il y a très peu de philosophes qui maintiennent les deux. C'est la grandeur de Thomas d'Aquin d'avoir maintenu les deux.